Bonjour à chacun, chacune. Quel beau cantique, n'est-ce pas? Dieu un jour est venu à notre rencontre pour nous faire découvrir la hauteur, la grandeur, la largeur, la profondeur de son amour, nous qui étions pécheurs, éloignés de Dieu sous sa colère. Comment la chanter? Tel que je suis, Jésus est venu me chercher pour me délivrer, pour faire de nous, faire de moi son enfant racheté, faire de chacun d'entre nous son peuple, pour que nous puissions célébrer sa gloire et sa louange, comment la faire? Alors si tu connais pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, sache qu'il veut t'attirer à lui, avec un cordage d'amour. Il a tout mis en œuvre pour te racheter et te sauver. Il ne met point dehors celui qui vient à lui. Prends la Bible, lis-la, pose des questions aux frères et sœurs ici présents. Découvre cette liberté. Combien on passe des ténèbres à la lumière, du péché à la justification. Tout ça gratuitement. Par Jésus-Christ qui est venu pour effacer notre péché une fois pour toutes, faire de nous ses enfants. Et on attend son retour par la foi. Oui, ce matin, on va lire le psaume 91, magnifique psaume, qui m'a donné bien du fil à retordre, c'est vrai. Mais je peux compter sur une épouse merveilleuse qui, quelquefois, il fait très beau, on peut se promener, et je lui dis, chérie, il faut que je travaille ma prédication, c'est compliqué, hein, on connaît, hein. Elle dit pas de problème, chérie. Et Dieu bénit. L'auteur décrit une totale confiance dans le Dieu de son salut. Un homme qui a dû traverser bien les épreuves, affronter des dangers et bénéficier de la protection indéfectible de son Seigneur. Et bien souvent, on passe par des épreuves sans savoir pourquoi ni comment, dans quel but. Bien, des fois, on ne sait pas. Mais tout concourt vraiment à notre édification. Tout concourt à notre bien, tôt ou tard. Les plans de Dieu sont toujours parfaits. Je me souviens, en étant en Italie, il y a bien des années avec Angela, je vais parler une ou deux fois de l'Italie, mais on ne voulait pas, mais c'est mon pays un peu. Voilà. Et nous étions en vacances, et moi je cherchais, on était entouré d'oliviers dans le sud, et je cherchais un olivier, du bois d'olivier. Et j'ai trouvé plusieurs morceaux, parce que le propriétaire qui nous faisait la parcelle avait coupé un vieil olivier. Et puis j'ai trouvé un beau morceau d'olivier. Et je l'ai un peu nettoyé, il ressemblait à un rocher, vraiment sculpté. Et puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un petit problème. Alors j'ai gratté, et puis tout à coup, j'ai creusé un trou dans ce rocher en bois. Et quand je l'ai apporté à la maison, je l'ai verni, posé sur un meuble. Et j'ai utilisé le psaume que notre frère, enfin la parole que notre frère a utilisée de Samuel. Quand David était dans le rocher, à l'abri de ses ennemis, pour se protéger. Aujourd'hui, on parle du Dieu, notre refuge. Et j'aimais le verset biblique qui montre toute la fidélité, la confiance de David dans ses moments d'épreuve. Oui, le Seigneur est notre rocher, c'est vraiment le but principal de notre message. C'est l'idée principale. Mais mon but, c'est de nous encourager à placer notre foi en notre Dieu, trois fois saint, en toutes circonstances. Et nous savons les uns les autres que les circonstances, quelquefois, sont très agréables ou fâcheuses. Alors, on va lire ce psaume. Lisons le psaume ensemble. Ceux qui ont des Bibles, je vous invite à prendre vos Bibles. Je lis dans la version seconde. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, on parle de Jésus. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Certains comparent le personnage de ce texte à Jésus, parce qu'il y a une telle perfection là-dedans. Dans le psaume 90, on voit l'homme avec le péché, ses failles, sa finitude, mais là, un serviteur de Dieu, qui est vraiment attaché à son Seigneur. Et les quatre premiers versets expriment la confiance sans faille du psalmiste. On y découvre quatre images qui reflètent la sécurité qui en découle. Dieu est un abri. Il est un refuge. Il est une forteresse. Et puis, une image que j'aime beaucoup, c'est celle d'un oiseau. Vous voyez des fois les reportages animaliers où les petits poussins se blottissent sous les ailes de la maman. On peut se réfugier à l'ombre de ses ailes. C'est une image. Dieu agissant comme une mère poule qui protège ses poussins, verset 4. Et c'est réconfortant de savoir que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, pourra toujours trouver un surabri lorsque l'épreuve, le danger sont pressants. Et ses ailes, dans ce texte, il est dit que c'est un bouclier, une cuirasse, quelque chose de puissant, presque indestructible. Même une forteresse, c'est l'idée qu'elle n'est pas, on ne peut pas l'assiéger. Hein, quand on est en Dieu, on ne peut pas être assiégé par le malin. On est à l'abri. Si nos projets s'effondrent quelquefois, si la maladie vient nous frapper, si les terreurs de la nuit, par des angoisses, nous assaillent, les ennemis, qu'ils soient physiques ou spirituels, s'approchent de nous, on se pose bien des questions, n'est-ce pas? Mais la grâce et l'amour de Dieu ne feront jamais défaut. Sa fidélité agira pour nous comme une cuirasse. On peut s'appuyer sur ses promesses contenues dans la Bible. Il est notre sécurité et notre réconfort. Et le psalmiste cite encore quatre attributs de Dieu, le décrivant comme étant unique. Il est le Tout-Puissant. En hébreu, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est sous ce nom que les patriarches Abraham, Isaac, Jacob ont été abordés par Dieu. C'est comme ça qu'ils l'ont rencontré, lors de leur pèlerinage, de leur chemin difficile, bien souvent dans le désert. Mais ce nom, il fait aussi référence à celui qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous permet d'évoluer, d'être de plus en plus sûr en Dieu. Et on sait, Jésus a vécu une relation sans faille avec son Père Céleste, dans une totale soumission à sa volonté. Lui aussi est demeuré à l'abri du Très-Haut. Pourtant, il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais sur terre, il a connu cette humanité avec ses failles. Il avait faim, il avait froid, il avait peur. Il s'est abrité à l'ombre du Très-Haut. Un titre qui place le fidèle dans une perspective d'être sauvé de toute menace éventuelle. Et il n'existe rien ni personne au-dessus de Dieu. Il est l'Éternel aussi dans ce psaume. Celui qui est, qui existe depuis toute éternité. Et le psalmiste lui dira d'une manière très intime, « Mon Dieu, c'est en toi que je me confie. » Combien il est important pour nous de chaque moment de se confier en ce Dieu merveilleux. En tout temps, l'Éternel est son refuge et sa forteresse. Quelle belle confession de foi. Et on vient de lire le verset 10 à 11. Dieu donne même l'ordre aux anges qui te protègent. Oui, Jésus a été protégé bien des fois lors de son pèlerinage, lors de sa mission, durant ses 3 ans de vie, de ministère. Oui, il a vécu la protection de son Père, mais jusqu'au moment prévu de toute éternité, où ses mains, ses pieds, son côté ont été percés, portant le poids de notre châtiment, subissant la colère à notre place. Et puis au verset 3, il y a un danger, un oiseleur. C'est un terme qui nous paraît tellement désuet, mais il s'agit d'un chasseur habile qui cherche à capturer les oiseaux de différentes manières. Là, il est question d'un filet. Vous allez me dire en quoi ça nous concerne, un chasseur d'oiseaux. Ça ne paraît pas très utile pour aujourd'hui. Pour un oiseau, vous le savez toutes et tous, se poser à terre, c'est un danger, parce qu'il est à la merci du prédateur. Tant qu'il vole vers les cimes des arbres, vers le ciel, il est préservé de tout danger. À l'époque, il n'y avait pas d'armes à feu. Il est préservé. Mais c'est une image pour nous chrétiens. Le monde est rempli de pièges et de vilains. On est assaillé de toutes parts. L'oiseleur, on peut dire le malin, l'ennemi de âmes veut nous capturer par l'attrait du péché, sous toutes ses formes. Il déploie ses ruses afin de nous priver de notre paix, de notre liberté. Faire défaillir peut-être notre foi, notre assurance. Et celui qui malheureusement se laisse séduire par ses sollicitations, risque tôt ou tard, par manque de vigilance, de tomber dans le piège. Et ainsi pris dans ses filets, il évoluera comme un esclave, tant qu'il n'aura pas confessé son péché. Il y a un homme un jour qui se promenait dans une forêt tropicale, un chemin bien défini, parce que la forêt tropicale, ça peut être dangereux, hein. Puis il a choisi de bifurquer pour voir ce qui se passe un peu à côté. Malheureusement, au bout de quelques minutes, il était totalement perdu. Il est en panique, il s'est dit « Mais comment je vais retrouver mon chemin ?» De chaque côté, il se tournait, il n'y a rien qui lui évoquait une quelconque possibilité d'issue. Il était perdu. Et soudain, il entend un son de cloche. Ah, il s'est dit « Peut-être un village pas loin. » Et puis il se dirige vers ce son. Puis 10 minutes passent, et il entend de nouveau le son de la cloche. Si tu tiens, je m'approche, mais c'est bizarre, je marche depuis des kilomètres. Et au final, il s'est retrouvé complètement perdu, pire qu'avant, complètement désorienté. Sa vie était fortement en danger, parce que le son de cloche venait d'un oiseau qui s'appelle l'oiseau cloche. Et il semblerait que ce son ressemble à celui de la cloche. Le péché agit comme ça. Il nous attire, d'une manière ou d'une autre, nous éloignant du chemin qui mène vers Jésus-Christ, pour nous attirer dans ses filets. Alors on a plusieurs moyens pour nous sortir de ces dangers. Déjà lire la Bible, ne vous conformez pas au monde présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, juste et parfait. Et si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Pour se prémunir de cet oiseleur, on peut évidemment, comme le dit le texte, l'idée principale, nous réfugier auprès de Dieu, qui nous couvrira de sa protection. Jésus a été tenté aussi par cet ennemi cruel. Comment a-t-il fait pour résister? Il a toujours renvoyé les attaques en utilisant la parole de Dieu, les saintes écritures. Voilà comment on peut résister. En confrontant l'ennemi de nos âmes, en lui répondant avec les saintes écritures. Contre la tentation aussi, on peut passer du temps dans le secret de nos chambres. Et en église, en prière. Combien la prière du juste est efficace, combien on peut lutter convenablement devant les attaques de l'ennemi face à nos tourments, à nos doutes, à nos difficultés. Vivons l'église comme on le fait ce matin. À l'écoute de la prédication, c'est une grâce, même si le prédicateur n'est pas fameux, mais tous les dimanches, vous avez une prédication, un enseignement. Et vous pouvez en retirer quelques éléments utile pour notre croissance, pour notre édification, pour notre marche quotidienne. Et puis évidemment, la louange, la communion fraternelle, le service, tous ces moyens nous aident à marcher sur le bon chemin. Nourrissons notre âme de l'Évangile, de toute l'Écriture, Ancien, Nouveau Testament. Partageons si besoin nos combats contre le péché avec un frère, une sœur, pour en ressortir plus fort, avec un responsable d'Église. C'est précieux pour résister. En tout cas, dans ces quelques versets, ces 4 versets, on a pu constater combien Dieu, évidemment, est majestueux. Il n'y a pas d'autre nom plus beau que le sien. Il est sans aucun doute un sous-refuge pour quiconque place sa foi en lui. Et combien de fois avons-nous, ici présents, expérimenté sa présence, sa protection, son secours? Et maintenant, on regarde une partie du passage la plus épineuse, apparemment. Il s'agit des versets 5 à 14. On y découvre la protection sans faille de Dieu envers son serviteur. Et quand on lit ces versets, la liste de dangers et de dangers d'obstacles est impressionnante. On se dit, waouh, pas évident. Il est question de terreur, d'une vie d'angoisse, de maladies, de guerres qui viennent vers nous, d'animaux sauvages. Évidemment, il y a de quoi être terrifié quand on lit ces quelques versets, on se dit, ouais, si je dois traverser tout cela, si 1000 ou 10 000 tombent, tu seras préservé. Tu ne seras pas atteint. Et même les anges seront présents pour te garder. Et pour couronner le tout, le Seigneur te donnera une puissance, le Saint-Esprit, puissance surnaturelle, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, afin de marcher sur le lion, la vipère, fouler le lionceau, le dragon, que des bêtes féroces. Des bêtes aussi qui font référence aux autorités des ténèbres. Le dragon, c'est le diable. Et la déclaration de ce psaume ne fait aucun doute, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Dieu est aux commandes, quoi qu'il nous arrive. Il nous remplit de force par son esprit pour résister et combattre contre les autorités des ténèbres représentées par ces bêtes féroces. Il nous aide à marcher dans les moments de grande affliction, d'opposition, de difficulté, d'incertitude. Oui, notre présent et notre avenir est dans sa sûre main, quoi qu'il arrive. Ça ne fait aucun doute. Mais néanmoins, une question reste en suspens. Pourquoi? On dirait que la personne de ce psaume, rien ne peut lui arriver. Or, il nous est déjà arrivé des problèmes, évidemment, des difficultés. Et à la lumière de l'histoire d'Israël et de l'Église, la promesse de cette protection divine, surnaturelle, est un peu dure, force des fois à avaler. Pour les enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles, parce qu'il y a un contraste entre la promesse de protection, de victoire, et la réalité de la souffrance qui impacte l'Église dans le monde entier, et peut-être certains d'entre nous. La déclaration des versets 2 à 7 sont étonnantes, elles prennent l'apparence de paradoxe. On ne voit pas comment en temps de guerre le chrétien épargné plus qu'un autre. Ça arrive, mais il tombe aussi. Quand les tours jumelles sont tombées en 2001 à New York, eh bien, il y avait des frères et des sœurs aussi qui travaillaient à cet endroit. Pourquoi n'ont-ils pas été épargnés? Nous le savons, des frères et sœurs souffrent depuis des siècles par la persécution. Que ce soit au Colisée de Rome, au Soudan, en Iran et dans bien des pays, beaucoup subissent des horreurs tous les jours. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, Chantal. Et en même temps, quand dans cette Bible, les Égyptiens subissaient le bras de Dieu, son jugement, le peuple d'Israël était à l'abri lors des plaies d'Égypte à Goshen, en totale sécurité, sous la main protectrice de Dieu. Quand David, pour ceux qui connaissent les Écritures, dans le livre de Daniel, un peu plus de 500 ans avant Jésus-Christ, ses trois compagnons ont désobéi à l'ordre du grand roi Nebuchadnezzar, et dans sa colère ardente, c'est le cas de le dire, il les a jetés dans une fournaise, liés, et sont ressortis. Leurs cheveux ne sentaient même pas la brûlure. Seuls leurs liens ont été brûlés. Quel miracle! Et puis, quand on lit le dernier exemple, Hébreux 11, on constate encore ce paradoxe apparent. C'est un paradoxe apparent, hein. La réponse vient tranquillement. Soyez patients, ça vient. Certains ont obtenu des délivrances miraculeuses, certains ont même retrouvé leur mort, hein, dit ce passage, qui fait écho à ce psaume. Mais en même temps, on y lit un peu plus loin que d'autres subirent le martyre. Quoi penser? Effectivement, aujourd'hui, on le croit par la foi que Dieu fait des choses miraculeuses, des protections divines, et en même temps, il peut permettre des épreuves, des tribulations, etc. etc. Quand nous étions à Rome, il n'y a pas longtemps, avec Angela, on avait fini notre belle journée de promenade, puis on prend le métro pour rentrer, tranquille, soudain, Angela est assise, et puis je suis en face, il n'y a pas de place, je vois une foule qui court vers moi. Et là, ça va vite, hein. Donc du coup, Angela, viens vite, je la prends par la main, et puis on court, comme tout le monde. Et ça crie, ça hurle, les gens ont peur, on ne sait pas pourquoi, mais nous courons. Mais vous voulez courir jusqu'à où? On arrive à la fin du wagon, on est bien obligé de se retourner et de se dire qu'est-ce qui se passe. Et là, on s'est dit, Seigneur, notre avenir est dans ta main. Si l'heure doit sonner aujourd'hui, bon ben, on n'a pas le choix. Hein. Au final, on est là devant vous, donc tout s'est bien passé. Il y a eu des disputes à l'entrée du wagon, quelqu'un avait jeté du gaz lacrymogène, enfin. Puis, Et puis c'était la panique. On est ressorti, voilà, en disant merci Seigneur. On a été préservé, mais peut-être les choses auraient pu se passer autrement. Alors on va aller un peu plus loin pour répondre à cet apparent paradoxe entre la promesse d'une protection miraculeuse et les situations douloureuses vécues par beaucoup. Comment comprendre ce paragraphe de 5 à 14? Il y a deux versets qu'on peut traiter pour éclairer notre lanterne. Il s'agit du verset 9 et 10. Alors, je n'ai pas tout à fait la bonne traduction, mais il est dit. Donc, au départ, tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Et ici, c'est en fait aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Important de considérer le mot mal dans ce texte. C'est pour exprimer tout ce qui nuit à notre confort, à notre bien-être, n'est-ce pas? Alors quand quelqu'un se cogne la tête, il a mal. Si quelqu'un vous calomnie dans l'église ou au travail, ça vous fait mal également. La portée du mot de ce psaume va bien plus loin que ça. C'est le même mot que le patriarche Joseph, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, l'a utilisé lorsqu'il s'adressait à ses frères. Vous connaissez toutes et tous l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, venez vous voir, je vous fais un résumé. Et il dit à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Signification, Dieu, c'est le bien, la bonté, le bonheur qu'il souhaitait. Il l'a changé en bien. Et quel était ce bien, cette bonté, ce bonheur dont Joseph parlait? On va lire la fin du verset. Genèse 50, verset 21. Vous aviez projeté de faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, de façon à pouvoir sauver la vie de ses enfants. Dans ce contexte, le bien, c'est la vie, et le mal, c'est la mort. Le mal ici, c'est pas ce qui porte atteinte à notre bien, vous l'avez bien compris, à notre confort, mais à notre salut éternel. Le pire mal qui pourrait nous atteindre, ou qui pouvait nous atteindre lorsque nous étions pécheurs, était de subir le courroux de Dieu, son jugement, d'être condamné à la séparation éternelle en subissant une éternité en enfer. C'est le pire mal qui peut atteindre une personne sur cette terre. Et puis les versets 14 à 16 expriment à merveille les bénédictions que reçut Jésus lors de son incarnation. Je vais le relire. Où il est dit au verset 14, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui fera contempler. Et je lui ferai contempler mon salut. Qui d'autre que Jésus pouvait prétendre être ce serviteur si parfait que décrit le psaume? Christ a invoqué son Père, notamment en Gethsémané, et il fut exaucé. Selon ces versets 14 à 16. Dieu était à ses côtés tout au long de son agonie, même sur la croix. Et ce que j'aime le plus, le Seigneur l'a délivré des liens de la mort en le ressuscitant le troisième jour. Jésus fut glorifié, recevant un nom au-dessous de tout nom, sur terre et dans les cieux. Il est Seigneur, Seigneur, roi des rois, et Jésus a goûté au salut. C'est lui qui est mort pour notre salut, mais il a goûté le premier au salut, si je peux me permettre, par sa résurrection. Et désormais, il se réjouit avec tous les rachetés dans le ciel, couronnés de gloire et de magnificence, en attendant qu'on le rejoigne. Et ce salut merveilleux est désormais nôtre en Jésus-Christ. On peut s'approprier tous ces versets. Je vais relire le verset 14 à 16, mais un peu modifié, comme si je parlais à Dieu ou nous parlions à Dieu. Dieu, dans son amour, nous a promis la délivrance. Alors, la délivrance d'un problème précis, ici, maintenant, mais c'est bien plus la délivrance, celle qui nous attend dans les cieux, l'éternité, où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes. Dieu répond à nos prières, ça on le sait déjà. Il nous accompagne dans la détresse. Merci Seigneur. Il nous délivrera et nous le glorifierons. Il nous délivre peut-être d'une angoisse, d'une détresse, d'une opposition, d'une épreuve, d'une maladie, ici et maintenant, ou pas. Mais un jour, la délivrance viendra. quand on sera auprès du Seigneur, totale, parfaite, merveilleuse. Et nous le glorifierons. Le Très-Haut nous a promis de nous rassasier de longs jours. Oui, bien sûr. Il nous fera voir son salut. On y a déjà goûté en Jésus-Christ. Et un jour, nous serons rassasiés de longs jours qui ne finiront jamais. On ne peut dire qu'amen à ce texte. Notre salut final est assuré, notre vie n'aura jamais de fin. Elle se poursuivra dans la félicité, en compagnie de celui qui nous a tant aimés, ainsi que tous les rachetés durant l'éternité. Et rien ni personne ne pourra porter atteinte à cette promesse. Je vais vous lire un passage que vous connaissez très bien. C'est dans Romains 8. Des fois, on peut douter. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, l'épée, le dénuement, le péril ou l'épée? On est en plein dedans, le psaume. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à tous à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Et le verset 37 est glorieux. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nos souffrances, nos détresses, nos luttes contribuent à magnifier, à glorifier le Dieu très saint, mais à nous rendre vainqueurs. À faire des hommes et des femmes de plus en plus ressemblants à la gloire de Christ. Et je suis persuadé, nous le sommes, n'est-ce pas, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ, Jésus notre Seigneur. Quel profond réconfort. Quel refuge nous avons en Jésus-Christ. Quelle promesse glorieuse. Des fois, je me dis, comment font les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui n'ont pas accès à toutes ces réalités spirituelles, pour tenir dans l'épreuve? Alors que moi, chrétien, c'est tellement compliqué. Je ne sais pas. Et nous ne serons jamais seuls. Tout ce qui est contenu dans ce psaume, ainsi que cette promesse de délivrance, versets 14 et surtout 16, de longue vie, de salut, nous sont destinés en Jésus-Christ. C'est écrit. Toutes ces merveilles nous appartiennent. Elles appartiennent à tous ceux qui confessaient Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Par sa mort, sa résurrection, le Fils de Dieu a vaincu à tout jamais le diable à la croix. Il a écrasé la tête de dragon qu'on trouve dans ce texte. Il a aboli le péché. Le mal et ses conséquences désastreuses qui nous meurtrissaient, il l'a aussi écrasé. En Christ, on est mort au péché. Et notre vie lui appartient. Nous sommes par la grâce des enfants rachetés. Nous sommes pour l'éternité au bénéfice de sa victoire, de sa protection, de ses bénédictions présentes et à venir. Nous sommes plus que vainqueurs en la lue en Jésus-Christ. Sa complète victoire est notre victoire. Et je peux dire avec allégresse, avec confiance, l'Éternel est mon sûr refuge. Et quoi qu'il t'arrive, cher disciple de Christ, sache que rien ne peut nuire à ce qui compte vraiment dans ta vie, ton avenir éternel, ton bonheur auprès de Christ. C'est pour ça qu'on est protégé de ce mal tellement violent, la séparation d'avec Dieu. Non, ce mal-là, il ne peut plus rien nous faire. Toutes ces bénédictions, elles nous appartiennent. Et en conclusion, je dirais le psaume 146, verset 5, qui dit « Celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu, heureux cet homme-là. Combien il est précieux de dire en toute occasion, favorable ou non, nous serons jamais seuls, car il ne dort ni ne veille celui qui prend soin de nos âmes. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel, notre Dieu, il est mon Sauveur, mon Seigneur. Il met tout en œuvre pour nous, son peuple, son Église, pour nous préserver. Et combien il est précieux de s'appuyer sur les promesses contenues dans ce texte, rien ne se fera sans son autorisation. Alors on peut marcher appuyé sur son bras, avec fermeté, avec persévérance, en comptant sur lui, en comptant les uns sur les autres, motivés par l'espérance de la vie éternelle. Persévérons, frères et sœurs. Les jours mauvais nous attendent et sont devant nous. Persévérons. Persévérons en Christ. 2 Corinthiens 4, verset 16, nous dit ceci. C'est pourquoi, enfin, je le dis un peu comme une prière, hein, parce que je dis ça comme ça, mais c'est pas simple, hein, quand on vit des difficultés, hein, c'est pas facile. Je minimise pas. Hein. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Légère affliction. Aussi nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a été faite par la main des hommes. Et même si on gémit aujourd'hui sur cette terre, pour différentes raisons, tout ça prendra fin. Ce psaume nous exhorte à la confiance, à la patience, à la persévérance, à la reconnaissance et bien d'autres choses que vous pouvez rajouter vous-même. Nous aurons toute l'éternité aussi pour lui témoigner toute notre gratitude. Et je termine par un vieux cantique qu'on aimait bien chanter ici, qui dit: Les dangers accourent subtils, inconnus, on le connaît, hein? Ouais. De près il m'entoure, plus près est Jésus. Qui dans le vois-je me redit, c'est moi Jésus. Ne crains rien, courage. Ne crains rien, courage, peuple du Seigneur, troupeau à Wittenheim. Je serai toujours avec toi. Amen. Prions ensemble.